France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. État d'urgence sur nos musées après le casse retentissant au musée du Louvre hier matin. Le ministre de l'Intérieur demande un renforcement de la sécurité partout en France. Le musée parisien lui est resté fermé ce matin sous la pression de ses personnels. Nous serons sur place et puis nous reviendrons sur les 3 minutes pour ce cambriolage au nez et à la barbe des gardiens. Nous verrons qu'aucun d'entre eux n'est armé au Louvre et nous irons plus loin avec nos invités à partir de 13h30. Toutes vos questions au 01 45 24 7000. À suivre encore l'utilisation de l'ADN. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
Plus facile à l'avenir dans les enquêtes criminelles.
L'utilisation de la généalogie génétique plus précisément. Retrouver l'auteur d'un crime en passant par l'ADN d'un cousin, d'une tante éloignée grâce aux bases de données étrangères. C'est ce que propose le ministre de la Justice et on vous explique tout ça.
A tout de suite pour vos précisions. Un incendie à Lyon la nuit dernière. Bilan 4 morts. Des squatteurs qui vivaient au sous-sol de cet immeuble lyonnais. Nous sommes sur place. Des employés de l'OTAN suspectés de corruption, des marchés d'achat d'explosifs et de drones sont en cause. Et puis comment suspendre la réforme des retraites? Cela tourne au casse-tête pour le Premier ministre. 13h45, notre feuilleton, une semaine dans la vie d'un salon de coiffure.
Toujours appliquer 2 shampoings, ensuite vous les essorez à la serviette, pas seulement à la main, et vous appliquez un masque sur les longueurs et sur les pointes.
Ça se passe à Mâcon. 13h50, c'est la France. Cécilia Arbona nous parle de la seule école nationale de vannerie. Plus de 300 personnes formées chaque année en Haute-Marne. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, une semaine spéciale Barbara avec Frédéric Pommier et aujourd'hui la chanteuse Marie-Paul Bell. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
Inter.
Un lundi matin de vacances scolaires, le musée du Louvre est l'une des visites les plus prisées de la capitale, mais pas aujourd'hui. Après une heure de flottement ce matin, la direction a finalement décidé de ne pas ouvrir les salles. Bonjour Victor Vasseur.
Bonjour.
Vous êtes sur le parvis du Louvre à Paris, une direction contrainte et forcée. Ce sont les personnels qui ont demandé cette fermeture.
Oui, car l'émotion est vive chez les salariés du Louvre. C'est eux qui ont poussé pour la fermeture du musée aujourd'hui. Réunion ce midi avec leur présidente dans l'auditorium. La direction tente de rassurer. Elle promet, je cite, des mesures et assure que des équipements supplémentaires seront installés. Les syndicats avaient alerté sur ces derniers mois, notamment sur le manque de personnel pour assurer la sécurité du musée.
Et conséquence, Victor, des milliers de visiteurs ont été refoulés.
Oui, le parvis devant la pyramide évacué vers 10h ce matin dans la pagaille.
Fermé aujourd'hui pour toute la journée, it's closed today, all day.
Des touristes déçus à l'image de Carole, 57 ans, venue de Marseille avec son petit-fils et sa nièce pour visiter le Louvre pendant leurs vacances.
On est dégoûtés, franchement. On fait la queue depuis une heure pour nous dire au dernier moment que c'est annulé. Hier, ça va, on comprenait, mais là, nous dire que c'est ouvert, et puis nous, au dernier moment, nous dire que c'est fermé. Voilà, on nous donne un ticket pour se faire rembourser, c'est tout.
De l'amertume et de l'incompréhension, comme cette touriste américaine.
I'm very upset about it.
Je suis très en colère. Pourquoi ils ont fait ça le jour où on était là, sourit-elle. Elle devait visiter le musée accompagnée de Belém, guide conférencière.
Je ne leur ai pas encore dit que ça n'ouvrira pas. Et en plus, ils partent demain. Donc c'est la dernière chance de voir le musée. Je leur dis que c'est la vraie expérience parisienne.
Ce qui est sûr, c'est que les portes du Louvre resteront closes demain, comme chaque mardi, jour de fermeture hebdomadaire du musée.
Victor Vasseur en direct devant le musée du Louvre à Paris avec les moyens techniques de Romain Luquiens. En attendant une éventuelle réouverture du Louvre mercredi, il y a urgence à sécuriser les lieux. Une réunion s'est tenue ce matin entre le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez et sa collègue de la culture Rachida Dati. Il demande à tous les préfets de France de renforcer les dispositifs de sécurité autour des établissements culturels, donc dans tous les départements français. Et puis il y a l'urgence de la traque du commando, 4 malfaiteurs qui ont pris la fuite hier matin à scooter avec les 8 pièces issues de la collection des joyaux de la couronne. Mais avant d'y venir, je voudrais qu'on s'arrête sur le cambriolage en lui-même avec Emmanuel Leclerc, Clémentine Sabrier et Stéphane Capron. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Emmanuel, vous nous apprenez que les 2 cambrioleurs qui ont pénétré à l'intérieur de la galerie y sont restés au final très peu de temps, plus de 3 minutes.
Si on reprend le minutage de ce vol spectaculaire, on a l'arrivée du camion nacelle en bord de Seine à 9h30. Le temps de disposer des plots plastiques autour du camion, d'enfiler des gilets jaunes et oranges, comme pour un chantier classique, et de monter la nacelle, eh bien les malfaiteurs découpent la vitre et s'introduisent à 9h34. Et à 9h37, ils ressortent 3 minutes minutes chrono, c'est loin d'être anodin. Évidemment, 3 minutes maxi, c'est le temps qu'ont mis les braqueurs des derniers casses dans les bijouteries parisiennes de la place Vendôme, par exemple, pour éviter l'intervention de la police. Et donc, même si les alarmes du musée ont bien fonctionné, comme l'ont dit les responsables, le temps de comprendre ce qui se passait vraiment, le temps que le système Ramsès qui prévient la préfecture de police et le ministère de l'Intérieur soit enclenché, eh bien les 3 minutes étaient écoulées, le commando déjà dans la nature.
Une salle dans laquelle se trouvaient donc des gardiens du musée du Louvre, hier matin, Clémentine Sabrier. Mais en fait, ils ont mis à l'abri les visiteurs présents dans la salle. Ils ne sont pas intervenus, ce qui a pu étonner. Quel est leur rôle?
Alors, ils doivent s'assurer de la sécurité des biens, mais leur première mission, c'est la sécurité des personnes. Ils organisent l'évacuation des visiteurs, vous le disiez, en cas d'intrusion, mais aussi en cas d'incendie, par exemple. Pour ça, ils doivent connaître sur le bout des doigts le circuit d'évacuation et les issues de secours. Et en cas de malaise d'une personne, ce sont eux qui appellent les secours et qui peuvent aussi prodiguer les premiers soins. Les agents doivent également s'assurer qu'il n'y a pas de dégradation, que les visiteurs ne s'approchent pas trop près des objets, des peintures, et donner l'alerte en cas de tentative de vol. En revanche, ils ne peuvent pas intervenir directement car ils n'ont pas les moyens d'arrêter ni même de désarmer les voleurs.
Ça veut dire qu'aucun des agents de sécurité du Louvre n'est armé.
En effet, il n'y a aucun agent armé au sein du Louvre, que ce soit à l'entrée du musée, dans les salles ou au niveau du PC sécurité, là où les agents regardent les vidéos des caméras de surveillance. Leur rôle à eux, c'est vraiment de donner l'alerte pour que la police, qui elle sera armée, puisse intervenir le plus rapidement possible. Si les agents d'accueil et de sécurité étaient armés, ils pourraient devenir des cibles pour les malfaiteurs, selon la CGT Culture, qui estime que ce serait même plus dangereux pour les visiteurs comme pour les agents.
CGT Culture qui insiste plutôt sur les suppressions de postes, 250 selon ces chiffres en moins de 10 ans, nous dit Nathalie Ramos.
Il y a au niveau du ministère de la Culture et de la politique générale cette tendance à vouloir écrémer les effectifs au maximum pour faire des économies, mais sauf que faire des économies sur la masse salariale, c'est aussi au détriment du service public et de la qualité de ce service public. Et on finit toujours par le payer quand on peut trop faire d'économies. Et puis c'est aussi la responsabilité qui parfois incombe au chef d'établissement d'ouvrir certains musées, parfois, et je ne parle pas nécessairement du Louvre, mais parfois certains musées ouvrent en deçà des effectifs minimums requis pour un fonctionnement optimal. Et donc c'est sûr qu'à force de fonctionner avec des rustines. Quand ça passe, mais on s'expose aussi parfois à des situations qui pourraient être dramatiques.
Alors, on entend ces revendications. Un rapport de la Cour des comptes, consulté par nos collègues de France Info, estime que le musée du Louvre n'est pas parvenu à rattraper son retard dans le déploiement d'équipements pour protéger les œuvres. Ainsi, 60% des salles de l'aile Sully, 75% pour l'aile Richelieu ne sont pas protégées par des dispositifs de vidéosurveillance. Fin de citation. Ce qui nous amène à la question du budget, Stéphane Capron. Le Louvre avait-il les moyens de financer sa sécurité? Question simple, comment a évolué son budget ces dernières années?
Eh bien, pas plus, pas moins. La subvention de l'État au Louvre est constante depuis plus de 10 ans, 100 millions d'euros. L'année dernière, Bercy a même raboté le budget de 3 millions d'euros. Le Louvre peut tout de même compter sur la hausse de ses ressources propres avec la billetterie, le mécénat. Cela représente 60% de son budget, mais le budget annuel de fonctionnement de 323 millions d'euros est insuffisant au regard des moyens nécessaire pour sécuriser le musée. C'est un manque criant de sécurité dont est consciente Laurence Descartes, la présidente directrice du Louvre. À sa prise de fonction en 2021, elle avait d'ailleurs demandé un audit à la préfecture de police de Paris. Et au début de l'année, sa note confidentielle révélait de sévères avaries dans le bâtiment. C'est ce qui a décidé Emmanuel Macron à lancer son plan Nouvelle Renaissance du Louvre, 700 à 800 millions d'euros sur une dizaine d'années, dont une part très minoritaire financée par l'État.
Budget constant donc de l'État pour le Louvre, en tenant compte de l'inflation. Aussi.
Oui, en tenant compte, effectivement,
de l'inflation. Forcément, ça a grignoté un petit peu l'argent à disposition du musée. Si on se projette maintenant sur l'action des enquêteurs, Emmanuel Leclerc, on vous retrouve. Ce qui leur donne de l'espoir, c'est qu'ils ont réussi, dans une autre affaire dont on vous avait parlé ici même, à retrouver une suspecte. Cette affaire, c'est celle du vol d'or au Muséum d'Histoire Naturelle le mois dernier à Paris.
Oui, pour le Muséum d'Histoire Naturelle et pour le braquage du musée Cognac-G également, selon la procureure de Paris, Laure Bécuot. Dans les deux cas, il y a eu interpellation d'un suspect. Et vous l'avez dit, en l'occurrence, une suspecte pour le Muséum d'Histoire Naturelle, comme l'ont révélé hier nos confrères de TF1, suspecte d'origine chinoise. interpellé à l'aéroport de Barcelone et ce sont bien les enquêteurs de la police judiciaire parisienne qui l'ont remonté avec une exploitation classique, téléphonie et vidéosurveillance, ce qui faisait dire ce matin à une commissaire que le commando du Louvre, si pro soit-il, devrait avoir du mal à s'en sortir, sauf que ça prend du temps et on l'a vu pour le braquage de Kim Kardashian, c'est ce temps précieux qui permet d'écouler le butin, mais là encore attention aux acheteurs. Pour le butin de la bijouterie Winston en mai 2024 à Paris, la BRB, la brigade de répression du banditisme, avait monté un coup d'achat, infiltré un acheteur et un expert, un coup de maître, là encore, mais pour la police.
Précision signée Emmanuel Leclerc, Clémentine Sabrier, Stéphane Capron, merci à tous les trois. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce cambriolage à 13h10 sur Inter et on va y revenir à 13h30 avec nos invités et avec vous 01 45 24 7000. On va parler notamment de la sécurisation des musées un petit peu partout dans notre pays. L'autre information de la matinée, c'est donc cet incendie mortel à Lyon, au sous-sol d'un immeuble du 3e arrondissement de la ville. Il y a 4 victimes, 2 femmes et 2 hommes d'une quarantaine d'années. Bonjour Christophe Vincent.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes sur place pour Inter. Christophe, selon les premiers éléments de l'enquête, les victimes squattaient en fait les caves de cet immeuble.
Oui, cet incendie s'est déclaré dans un immeuble années 60 de 10 étages situé dans la partie ancienne du quartier de la Part-Dieu. L'intervention rapide des pompiers a empêché le feu de se propager dans les étages et comme il pleuvait beaucoup, les occupants sont restés confinés chez eux. Le colonel Christophe Perret a dirigé les opérations de secours.
On a été alerté à 5h du matin, donc 5h07 exactement, pour un feu dans ce sous-sol qui était squatté. Donc on est venu rapidement à bout du sinistre avec une lance. Et malheureusement, donc, on a sorti donc, de ce squat 4 personnes en arrêt cardio-respiratoire qui ont été déclarées décédées par le SAMU sur place. Il y avait 4 équipes du SAMU sur place.
Dans l'immeuble voisin, géré par la même régie, cette locataire évoque un premier incendie il y a 6 ans et elle dénonce la présence de squatteurs.
C'est un immeuble où il y a 10 étages. Et effectivement, dans cette régie, il y a beaucoup de gens qui squattent. On n'a eu que des soucis. Et c'est quand même grave parce qu'en fait, ils ne tiennent pas compte parce que ça fait quand même 2 fois. En 2019, pareil, le feu a pris dans les étages. Ça a tout brûlé les ascenseurs et tout. Bon, voilà. Donc on n'est pas bien psychologiquement parce qu'on n'est plus rassuré maintenant. On n'a pas de chauffage. On n'a pas d'eau chaude tout le temps. On est squatté. On a eu des cambriolages. Enfin, c'est à l'infini. Et ils s'en foutent, quoi, en fait.
Les experts de la police scientifique doivent maintenant déterminer la cause du drame.
Christophe Vincent, en direct de Lyon pour Inter. Un ancien président de la République en prison. Ce sera demain une première dans l'histoire de la République française. Nicolas Sarkozy à la prison de la santé. Après sa condamnation pour avoir laissé ses collaborateurs préparer un projet de financement de sa campagne présidentielle de 2007 par l'alibi de Muammar Kadhafi. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, était ce matin l'invité de France Inter. Il a confirmé qu'il avait échangé directement il y a quelques jours avec l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, et Gérald Darmanin est même allé plus loin.
J'ai été voir Nicolas Sarkozy, vous savez quoi, j'irai le voir d'ailleurs en prison. Comme garde des Sceaux, j'irai m'inquiéter.
Vous irez voir Nicolas Sarkozy en prison?
Je m'inquiéterai de ses conditions de sécurité si Nicolas Sarkozy demain...
Est-ce que vous irez le voir au parloir pour discuter avec lui comme vous êtes allé dans son bureau?
Le ministre de la Justice peut aller voir n'importe quelle prison et n'importe quel détenu quand il le souhaite. C'est parce qu'il doit garantir le bon fonctionnement du service public comme je le fais. J'y vais 3 fois par semaine.
Gérald Darmanin au micro de Benjamin Duhamel qui annonce aussi, le garde des Sceaux, une nouveauté pour résoudre les affaires criminelles et notamment des affaires anciennes. Le recours à la généalogie génétique, il va proposer une loi pour l'autoriser. Alors cette technique permet d'aller puiser dans les bases de données à l'étranger. Delphine Evenou, on vous retrouve. Comment est-ce que ça fonctionne?
Envoyer un prélèvement pour connaître ses origines ou retrouver de lointains cousins, c'est la généalogie récréative, interdite en France mais pas à l'étranger. 50 millions de personnes l'ont déjà fait, surtout aux États-Unis. Imaginez la base de données. L'idée, c'est donc de prendre un ADN de scène de crime en France et voir s'il match à l'étranger, s'il correspond à un profil. Puis on va retracer l'arbre généalogique pour tenter de retrouver l'auteur du crime. C'est déjà arrivé une fois en France en 2022. Avec un violeur en série, grâce au FBI, puis à l'équipe de Frank Danroll, chef de l'Office central pour la répression des violences aux personnes.
Nous avons pu identifier l'auteur de cette série grâce à la généalogie génétique en tombant sur ses ancêtres assez anciens et en remontant jusqu'à lui par la généalogie.
Et tout ça parce qu'un Brestois avait envoyé son ADN aux États-Unis. L'idée de la future loi, c'est donc de faciliter ce travail avec les partenaires étrangers, de lui donner un cadre juridique, et le commissaire Danerolle est impatient.
Pour nous, cette technique-là, c'est véritablement révolutionnaire parce qu'on a dans nos dossiers cold case un grand nombre de traces ADN qui ne parlent pas parce que l'auteur n'a jamais été prélevé dans les bases policières. Avec cette solution-là, on va pouvoir relancer les investigations, de nouvelles orientations d'enquête pouvant être travaillées.
Et plus de 30 cold cases pourraient être potentiellement résolus en utilisant cette technique, disait ce matin sur France Inter Gérald Darmanin.
Explication Delphine Evenou. Il avait porté une loi pour améliorer la prise en charge de la maladie de Charcot, dont il était lui-même atteint. Le sénateur Les Républicains Gilbert Boucher est mort aujourd'hui à l'âge de 78 ans. L'an dernier, son discours devant le Sénat, alors qu'il était sous respirateur, avait beaucoup ému. Il avait également été maire de Thun-l'Hermitage, dans le département de la Drôme, pendant plus de 20 ans.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
2 mois pour donner un budget à la France. Voilà le calendrier serré proposé aux parlementaires. Délai d'autant plus court que le Premier ministre a d'ores et déjà renoncé à l'utilisation de l'article 49.3 qui permet de raccourcir les débats à l'Assemblée. L'hémicycle, le projet de loi de finances n'y est pas encore, ce sera vendredi. Ce matin, la partie recette du texte est arrivée en commission des finances. Question, que va-t-il rester des choix faits par Sébastien Lecornu ? Bonjour Mathilde Himy.
Bonjour Jérôme.
Les députés sont allés vite ce matin. Ils se sont penchés sur les Français à mettre à contribution, les précaires, les plus riches.
Oui, et débat autour de l'impôt sur le revenu ce matin, avec plusieurs groupes opposés au gel de l'indexation du barème. Autrement dit, ceux qui basculent de tranche, qui paieraient 1% de plus, et d'autres qui rentreraient dans l'impôt. Inacceptable pour la LFI, Claire Lejeune.
Ce sera 100 euros par ménage en moyenne à payer. Ça fait 300 000 personnes de plus qui vont entrer dans le barème de l'impôt, avec tous les effets de bord qu'il y a derrière en termes d'accès aux prestations sociales.
Philippe Juvin, LR, mais rapporteur général, se voit donc obligé de défendre ce gel du gouvernement.
Je donnerai un avis défavorable à tous ces amendements. L'année blanche, c'est peut-être une des solutions quand on est dans la situation grave que nous connaissons.
Alors finalement, le groupe Liot fait adopter un amendement empêchant le gel sur la première tranche, épargnant ainsi les plus modestes. Autre sujet brûlant ce matin, la contribution exceptionnelle des plus hauts revenus, les plus riches, précisément pour rattraper ceux qui optimisent fiscalement et paient ainsi moins que d'autres. Taxe prévue à l'origine sur un an, à supprimer donc, dit le Renaissance, Guillaume Casbarian.
C'était une mesure qui était censée être temporaire. Malheureusement, elle est prorogée. Or, nous avons un taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de l'OCDE et par cohérence, nous sommes un certain nombre de collègues à vouloir supprimer cette mesure.
Mais des accords d'un autre du bloc central, le Modem Jean-Paul Mattei.
C'était une mesure de justice fiscale et cette mesure était une mesure de bon sens.
La droite républicaine va alors plus loin et propose que cette contribution soit prolongée jusqu'à la réduction de notre déficit sous le seuil européen. Amendement adopté tout à l'heure par un large spectre politique.
Compte rendu signé Mathilde Dehimy. Concession majeure faite par le Premier ministre la semaine dernière pour se maintenir à son poste. Suspendre la réforme des retraites adoptée en 2023. Il l'avait dit devant les députés. Mais depuis, bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Laurence, vous êtes en direct de l'Assemblée. Depuis, personne ne sait comment il va s'y prendre techniquement pour faire passer cette mesure.
Alors à en écouter Jean-René Cazeneuve, député macroniste et ex-rapporteur du budget, on passerait par un amendement dans le budget de la Sécurité sociale.
Le gouvernement est parfaitement à même d'introduire un amendement dans le PLFSS. Il existe aussi, parce que quelquefois, il y a des points qui sont gris, des zones grises, et c'est son rôle que de clarifier.
La zone grise est une zone d'alerte rouge pour le RN et LFI qui ont dénoncé tout le week-end le risque, je cite, d'entourloupe. Le constitutionnaliste Benjamin Morel-Abonde, il y a un vrai risque de censure par le Conseil constitutionnel. Pour sécuriser donc le processus, il faudrait une lettre rectificative concernant cette suspension. Une procédure contraignante, hein, il faut passer par le Conseil d'État, le Conseil des ministres, et surtout ceci doit avoir lieu avant le début de la discussion du budget de la Sécu, soit le 4 novembre. En clair, ça urge pour le député socialiste Philippe Brun.
À l'unisson de beaucoup de parlementaires, nous demandons bien sûr aussi cette lettre rectificative pour qu'il puisse y avoir l'article de la suspension directement dans le texte du projet de loi de financement de la Sécurité sociale.
À 7h, vous avez une réponse ?
Pas de réponse pour l'instant, j'espère demain avant les questions au gouvernement.
Et à Matignon, on concède que le sujet n'est pas encore tranché.
Laurence Perron en direct de l'Assemblée nationale avec les moyens techniques de Raymond Albouy. Je reviens un instant à la question du budget. Le Premier ministre, encore lui, a promis la semaine dernière une loi cadre sur le financement des nouvelles mobilités mobilité et notamment du train. Il veut orienter les recettes des concessions d'autoroutes vers le rail. Et ce matin, les ONG Oxfam, l'Alliance écologique et sociale et le syndicat Sudrail publient un rapport sur les besoins de financement du ferroviaire dans notre pays. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Il faut selon elle 3 milliards d'euros supplémentaires chaque année pour notre réseau ferré.
Oui, car il y a urgence, dit ce rapport, avec des voies ferrées vieilles de plus de 30 ans en moyenne en France. Selma Huard d'Oxfam France rappelle que 10 000 km de petites lignes pourraient fermer d'ici 2038, alors même que le secteur des transports est le plus émetteur de gaz à effet de serre dans notre pays.
Le réseau ferroviaire français est à bout de souffle, et plus spécifiquement les lignes de desserte locales. Entre 2012 et 2020, il y a 3 600 km de lignes qui ont fermé. Si on ne fait rien, ce qui se passe, c'est que les petites lignes ne vont pas être modernisées via les financements de SNCF Réseau. On va se retrouver dans une situation où des personnes ne pourront plus prendre le train pour aller travailler, pour aller se soigner. En fait, on est en train d'accroître la dépendance à la voiture en France.
La SNCF demande donc 1,5 milliard d'euros de plus chaque année pour rénover son réseau. Il en faut deux fois plus, 3 milliards, répètent les ONG, pour ne pas se contenter de rénover, mais pour ouvrir des lignes. Problème, ces investissements sont surtout portés par les collectivités territoriales. Et le projet de budget 2026, pour l'instant, prévoit de diminuer le fonds vert qui les aide à financer la transition.
Il va passer à 650 millions d'euros, c'est rien, c'était 2,5 milliards en 2024. Les collectivités territoriales, on leur coupe leur financement en leur demandant d'en faire toujours plus.
Et Sébastien Lecornu, vous l'avez dit, promet une loi cadre et d'utiliser les recettes des concessions d'autoroutes pour financer le ferroviaire.
Rémi Brancato. Partout en Europe, les budgets de la défense repartent à la hausse face à la menace russe. Et cet argent suscite manifestement des appétits. Révélation du consortium de journalistes d'investigation Follow the Money, associé à plusieurs médias européens. Des enquêtes pour corruption ont été ouvertes en Europe et aux États-Unis au sein de l'OTAN. Voilà ce qu'on apprend. Bonjour Fabien Cazot. Fabien, est-ce que vous êtes avec nous ?
Bonjour.
Fabien Cazot, notre correspondant à Bruxelles. Fabien, ce sont des employés actuels ou passés d'ailleurs de l'OTAN qui sont mis en cause.
Oui, et plus précisément ceux d'une agence interne à l'OTAN chargée de passer les contrats aux entreprises de défense pour acquérir des munitions, des drones et toutes sortes d'équipements militaires. Une sorte de centrale d'achat qui a fort à faire depuis plusieurs mois dans ce contexte de réarmement que vous évoquiez. Les fabricants d'armes cherchent à intégrer ce catalogue dans lequel les États membres puisent pour s'équiper, et certains de ces industriels ont clairement passé les bornes en soudoyant, selon les enquêteurs, des employés de l'agence pour obtenir des informations confidentielles dans le but d'être référencés à la place d'autres concurrents. Certains représentants de ces industries ont également été interpellés. Le parquet fédéral belge a confirmé que plusieurs perquisitions et même des arrestations ont eu lieu en Belgique, au Luxembourg où l'agence de l'OTAN est basée, mais aussi aux Pays-Bas. L'OTAN de son côté fait part de sa volonté de collaborer de manière approfondie aux investigations toujours en cours.
Merci Fabien Cazot. Il est temps de trouver un accord pour mettre fin à la guerre. Voilà le message que le président américain Donald Trump a publié vendredi dernier après son entrevue à la Maison-Blanche avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, lequel a sobrement commenté « Le président américain ne veut pas d'escalade ». Fin de citation. En fait, et on l'apprend aujourd'hui, l'entretien a été extrêmement musclé. C'est le journal américain Financial Times qui le révèle. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Selon le quotidien, Donald Trump a passé un savon à Volodymyr Zelensky.
Oui, à croire le récit fait au Financial Times par plusieurs diplomates, l'entrevue de vendredi n'avait pas grand-chose à envier finalement en termes de tension, d'agressivité à celle de février, quand le président ukrainien avait été publiquement humilié par Donald Trump et J.D. Vance. Vendredi donc, le président américain à nouveau a plusieurs fois haussé le ton. Il a fait la leçon à Volodymyr Zelensky, le pressant d'accepter la paix aux conditions posées par la Russie. En fait, poursuit le quotidien, Donald Trump s'est comporté comme le petit télégraphiste de Vladimir Poutine, à qui il avait longuement parlé la veille au téléphone. Et le message était clair pour l'Ukrainien Zelensky. Vous êtes en train de perdre cette guerre, donc soit vous acceptez ce qu'exige le Kremlin, soit Poutine jure de détruire l'Ukraine et il le fera.
Poutine qui apparaît encore comme le grand gagnant de cette séquence.
Et on ne sait pas ce que le Russe a dit à l'Américain jeudi au téléphone, mais il semble avoir encore une fois réussi à retourner Donald Trump Trump sur la question des territoires auxquels l'Ukraine devrait tout bonnement renoncer et sur cette rencontre qu'il a obtenue à Budapest dans les jours, dans les semaines qui viennent, au cœur de l'Europe, chez le pro-russe Viktor Orban, comme un camouflet pour les Européens tenus à l'écart du processus de paix en Ukraine. Même Volodymyr Zelensky, hier, s'est dit prêt à venir dans la capitale hongroise pour discuter à trois, mais il n'a pour le moment, l'Ukrainien, reçu aucune invitation.
Camille Magnard, pour ce décryptage, Amazon touché par une panne mondiale sur ses services de cloud, ces serveurs qui permettent à beaucoup de sites et applications de fonctionner. De forts ralentissements depuis ce matin sur les plateformes de réservation Airbnb ou encore les réseaux sociaux Instagram et Snapchat, les applications Duolingo ou encore l'IA Perplexity, perturbées tout comme des opérateurs de télécom en France, mais aussi des banques. Au Royaume-Uni, l'entreprise américaine reconnaît un taux d'erreur important ces dernières heures et nous annonce un retour à la normale en cours. Là, c'est le retour d'un très grand joueur de football, Ballon d'Or, il y a quelques semaines. Ousmane Dembélé, touché à la cuisse droite le 5 septembre avec l'équipe de France de football, fait son retour dans le groupe du Paris Saint-Germain qui affronte demain en Ligue des Champions le Bayer Leverkusen. Ils sont de plus en plus nombreux un petit peu partout en France. Des stages de formation au premier secours, non pas pour des humains, mais pour des animaux de compagnie, des chats ou des chiens. Que feriez-vous, comment réagiriez-vous si votre chien ou votre chat était victime, par exemple, d'un arrêt cardiaque? Exemple, hier, dans le département de l'Yonne, un stage à Saint-Florentin, à laquelle participaient une dizaine de propriétaires de chiens. Reportage Thierry Maïs.
Pistache! Pistache! Pas de respiration.
Mélissa doit faire du bouche à truffe à l'aide d'un sac spécial. Heureusement, cette fois, ce n'est qu'un exercice. Mélissa Nouniès montre les bons gestes.
J'ai englobé la gueule du chien et j'ai soufflé dans le nez. J'en ai fait 4 au début, 30 compressions. Tout. C'est assez rapide.
Et il ne faut pas s'arrêter. Au bout de 2 minutes, il y a un risque de séquelles irréversibles. Ces premiers secours sont essentiels car c'est au bon vouloir de votre vétérinaire de se déplacer.
Quand vous l'emmenez dans votre voiture, vous continuez à faire le massage cardiaque. Mais du coup, le chien, dans le coffre, parce que la banquette arrière est molle, forcément, quand on pose son cucu, c'est confortable, donc ça absorbe le choc. Donc là, l'objectif, c'est que ce soit le cœur qui absorbe le choc.
Mélissa montre aussi comment poser des bandages. C'est pour ça que Nathalie est venue, car elle n'a pas su réagir quand son berger allemand de 42 kilos s'est blessé en plein milieu de la forêt.
Il a été dans un fourré, il en est ressorti et en fait, il saignait d'une des pattes arrière. On était à plus d'une demi-heure à pied de la voiture. À chaque pas, on voyait le sang qui s'échappait. On a été chez le vétérinaire en urgence. L'artère était coupée, c'était ouvert sur une longueur de 5 cm.
Et en cas d'urgence, un numéro de téléphone, le 3115, pour joindre des vétérinaires 24 heures sur 24.
Un reportage ici au CER, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas. Puis à partir de 13h30, la sécurité de nos musées en question après le casse du Louvre. Hier, j'attends vos questions pour nos invités. 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton. Nous sommes dans un salon de coiffure. Premier épisode aujourd'hui. On parle des prix. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cécilia Arbona, Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Cécilia, vous nous parlez de panier.
Un label d'indication géographique protège depuis le 3 octobre le savoir-faire des vanniers de Faye Billot. Ils tressent des tiges de saule depuis 3 siècles.
Ça se passe dans le département de la Haute-Marne. Et avec vous Frédéric, premier épisode d'une semaine consacrée à Barbara. Nous sommes avec la chanteuse Marie-Paule Bell.
Marie-Paule Bell, dont la carrière doit beaucoup à Barbara. D'abord parce que c'est en la voyant sur scène qu'adolescente, elle s'est mise en tête de devenir chanteuse elle aussi. Ensuite parce que plus tard, elle a créé plusieurs spectacles autour de Barbara. Et avec elle, nous écouterons « Attendez que ma joie revienne ».
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
En chaque enfant confié en protection de l'enfance, il y a souvent des blessures invisibles. Ces blessures peuvent fragiliser leur santé mentale et les empêcher de grandir sereinement. Chez SOS Village d'Enfants, nos professionnels sont formés pour prendre soin de leur santé mentale et de leurs besoins. Une approche sensible au trauma et un soutien dans la durée peuvent transformer une enfance. Ensemble, agissons pour faire de la santé mentale des jeunes une priorité. Rendez-vous sur sosve.org.
Mercedes-Benz.
J'adore le mois d'octobre.
Oh, tu plaisantes? L'été est terminé, les jours raccourcissent.
Ah ouais, mais c'est aussi le retour des Star Days chez Mercedes-Benz.
Ah,
Les beaux jours reviennent alors.
Du 1er au 31 octobre, prenez la vie côté Star Days et profitez d'offres sur de nombreux modèles, comme le GLC, le GLA ou encore la classe A Star Edition suréquipée. Dès 389€ par mois sans apport. Location longue durée 37 mois 45 000 km si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
C'est un temps agité aujourd'hui, ça risque de durer d'ailleurs toute cette semaine.
Effectivement, cette semaine est placée sous le signe de la pluie et des averses. Des pluies déjà soutenues et parfois orageuses arrosent actuellement le sud-est et vont persister entre la Provence et les Alpes du Nord pour atteindre également la Corse cet après-midi. Sur le reste du pays, le ciel sera plus variable, les éclaircies seront assez timides et les nombreux nuages s'accompagneront d'averses. Les averses seront surtout marquées sur les Hauts-de-France, le bassin parisien, la Normandie et l'Anjou en débordant vers l'Orléanais avec là aussi quelques orages. Une petite frange entre le Pays Basque, le Sud des Landes, le Midi Toulousain et le Languedoc-Roussillon sera un peu épargné par les averses. L'après-midi sera d'ailleurs plutôt sec et les éclaircies seront aussi plus vaillantes. Et puis il faut aussi composer avec beaucoup de vent sur la plupart des régions cet après-midi, en particulier sur le quart nord-ouest où les rafales souffleront entre 70 et 90 km par heure. Côté température, les maximales sont globalement proches des normales, parfois un peu juste sous les pluies soutenues du sud. Prévoyez 14 à 20 degrés en général, avec 20 à 24 degrés entre la Corse, le Languedoc et le sud de la Garonne. On attend 17 degrés du côté de Quimper, de Lille, de Paris ou de Nancy, 18 à Lyon et à Nice et 24 degrés à Montpellier.
Sébastien Léas, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Le casse du Louvre hier matin passionne le monde entier quand il alerte en France. Alerte sur la sécurité du Louvre, précisément le musée le plus célèbre au monde. Sécurité aussi sur l'ensemble des musées français. On se souvient que le Muséum d'Histoire Naturelle a été victime d'un vol il y a quelques semaines, tout comme le musée Adrien Duboucher de Limoges. Et voilà pourquoi le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Culture ont demandé au préfet de chacun de nos départements de renforcer la sécurité autour de ces établissements culturels. Alors, comment mieux les sécuriser dans un contexte budgétaire contraint que personne n'a oublié? Comment retrouver aussi ces œuvres d'art dans les prochaines semaines? Voilà quelques-unes des questions qu'on va se poser dans les prochaines minutes avec vous. 01 45 24 7000, vous passez également via l'application Radio France. Je vous présente nos deux invités. Luc Lariba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur du roman graphique Trafic d'œuvres d'art, une enquête en cours de l'OCBC.
Une enquête au cœur.
Au cœur de l'OCBC, c'est l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, l'OCBC, qui est aussi en charge, notamment, de l'enquête qui nous intéresse. C'est aux éditions de La Martinière. Alexandre Portier, bonjour.
Bonjour.
Président de la Commission des Affaires Culturelles de l'Assemblée Nationale. Vous êtes député Les Républicains du département du Rhône. Et vous demandez, Alexandre Portier, l'ouverture, la création d'une commission d'enquête parlementaire pour savoir ce qui s'est passé hier matin au Louvre, notamment.
Alors oui, d'abord ce qui s'est passé au Louvre, mais au-delà aussi pouvoir tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé, parce qu'on a bien vu l'émoi, la consternation, la colère que ça pouvait générer chez bon nombre des Français. Il y a un aspect matériel, évidemment, des pièces extrêmement précieuses qui ont été dérobées, mais il y a aussi quelque chose de très symbolique, c'est l'ensemble du patrimoine des Français qui apparaît menacé. Et finalement, on a tous eu l'impression hier que c'était une partie de notre histoire collective qui nous avait été dérobée, et on a besoin aujourd'hui de savoir très précisément comment ces choses-là ont pu se passer, mais aussi comment mieux sécuriser demain l'ensemble de nos équipements, de nos musées, mais aussi des équipements de proximité.
C'est un sujet qui dépasse la seule question du musée du Louvre, selon vous ?
Oui, totalement. Alors évidemment, c'est très fortement symbolique quand on parle du plus grand musée du monde, mais en réalité, au quotidien, on a dans des églises, dans des chapelles, dans des équipements municipaux dans nos territoires, des vols qui sont tout aussi important pour le quotidien et pour la préservation de notre patrimoine. Et donc, c'est une réflexion globale qu'on doit maintenant engager.
Question de Martine, qui nous appelle de Fresnes. Bonjour Martine.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors voilà, je voulais demander à monsieur, c'est un sénateur ou un député, je ne sais pas.
Député.
LR, si j'ai bien entendu. Est-ce que, croyez-vous qu'à force de réduire le budget de tous les services publics, que ce soit le Louvre, les hôpitaux, l'éducation nationale, on puisse en garantir la sécurité?
Merci Martine pour cette question. Réduction du budget, tout à l'heure Stéphane Capron nous disait le budget il n'a pas bougé au Louvre ces dernières années, mais compte tenu de l'inflation, c'est comme s'il avait été raboté année après année.
Oui, c'est pour ça que je propose aussi cette commission d'enquête et pour pouvoir mettre tout à plat et tout sur la table. Très clairement, le budget du Louvre a été globalement stable ces dernières années. Le budget du patrimoine est monté par étapes. Le budget global de la culture aussi. Donc on voit bien qu'il n'y a pas qu'une question de moyens budgétaires, il y a aussi une question de stratégie, de pilotage et de priorité que collectivement on veut assumer pour l'avenir.
Mais si on doit mettre des caméras, il n'y a pas des caméras partout au Louvre, fatalement ça va coûter de l'argent. Des caméras installées et du personnel pour surveiller les images.
Mais c'est aussi pour ça que je demande cette commission d'enquête. C'est aussi pour envoyer un message aux Français. C'est-à-dire qu'on a du mal aujourd'hui à se mettre d'accord sur un certain nombre de réformes pour préserver un modèle budgétaire, un équilibre budgétaire. Si on ne fait pas des choix, on ne sera pas capable demain d'assumer ses responsabilités fondamentales pour protéger ce qui nous rassemble tous, notre histoire collective et notre patrimoine.
Question de Jean de Montpellier, Luc Laribas, c'est pour vous. Qu'est-ce que les auteurs du cambriolage espèrent faire de ce qu'ils ont volé ?
Alors, les auteurs du cambriolage, eux, je ne pense pas qu'ils vont en faire quelque chose. Je pense que c'est plutôt des petites mains qui travaillent pour quelqu'un d'autre. On n'est pas du tout dans un roman d'Arsène Lupin ou dans L'Homme de Rio ou Indiana Jones. On est vraiment dans quelque chose de factuel. Aujourd'hui, il y a toute une criminalité organisée qui existe dans le trafic des biens culturels dont les gens n'ont pas forcément conscience, alors qu'ils en ont peut-être plus conscience au niveau de la criminalité organisée pour le trafic de stupéfiants ou le trafic d'armes. Il faut quand même savoir que le trafic des biens culturels, il n'est pas que en France, il est partout dans le monde, et qu'une œuvre d'art, elle passe beaucoup plus facilement la douane qu'un sachet de drogue ou qu'une carabine.
Donc, parce que c'est plus difficile à détecter ?
Mais vous pouvez partir avec un bijou autour de vous, vous passez le X-ray à l'aéroport, on ne saura pas si c'est un bijou qui date de Napoléon ou si vous l'avez acheté chez Boucheron, par exemple. Donc un objet, à la fois il est très identifiable et à la fois il est irreconnaissable. On peut pas l'identifier comme une œuvre d'art. Et pourtant, les œuvres d'art qui sont volées sont très importantes à sécuriser. Et c'est quand même le travail de l'OCBC en premier. C'est certes d'enquêter, mais c'est aussi de faire de la prévention sur tout le marché de l'art, que ce soit les musées, les galeries, tout ça. Ce que va devenir les objets, on ne peut pas savoir s'ils vont être démantelés, retaillés, recoupés. C'est pas pour qui c'est.
Vous avez suivi les enquêtes de l'OCBC. Dans les enquêtes que vous avez suivies, il s'agissait, et qui ont pu être résolues, il s'agissait à chaque fois de commandes précises. Je veux tel objet, je sais qu'il y a telle exposition, je sais qu'il y a tel musée, donc je passe un appel d'offres ou je mobilise une équipe pour qu'elle aille voler. Ou bien c'est, j'allais dire, l'offre qui fait la demande, et il y a des malfaiteurs qui identifient une fragilité, peut-être d'un musée, d'une exposition, et qui vont avant de revendre.
Alors, il y a plusieurs cas de figure qui sont exposés dans le livre. Il y a effectivement une affaire qui traite d'un commanditaire qui avait demandé des cartes anciennes pour sa propre collection. Mais par exemple, le pillage archéologique, il n'y a pas de commanditaire. Des gens qui vont faire des fouilles sur des sites archéologiques en Syrie, même en Grèce, même en France, quand on parle du détectorisme en France, où on prend des objets qui viennent du patrimoine aussi, quand on retrouve des pièces qui datent de l'époque romaine en France, il n'y a pas forcément de commanditaire derrière. Donc sur ce vol-là, peut-être qu'il y en a un, peut-être que c'est juste quelqu'un qui a envie de se faire plaisir. Pour l'instant, on ne peut pas déterminer, et ça va être vraiment le but de cette enquête qui est menée. C'est le temps qui va pouvoir les aider à savoir qui, quoi, comment, pourquoi.
Il y a toujours un effet d'impression, c'est-à-dire que là, il y a ce casse qui fait l'actualité, qui fait la une au Louvre. Il y a eu d'autres précédents, je l'ai dit, ces dernières semaines. Est-ce que vraiment nos lieux, nos établissements culturels sont davantage visés depuis quelques années, ou bien là, on s'intéresse à cette question parce qu'il y a ces faits qui se sont succédés ?
Je pense qu'on s'intéresse à cette question parce qu'il y a ces faits, parce que des cambriolages, il y en a vraiment eu à toutes les époques que ce soit. Il y a quand même eu aussi celui du musée d'art moderne à Paris, il y a plus de 10 ans. C'est vrai que là, on pointe du doigt, mais la sécurité dans les établissements publics, que ce soit les musées, les bibliothèques ou privées, les chapelles, les châteaux, c'est vraiment une question qui est là depuis plusieurs longues années.
Albert nous appelle de Touraine. Bonjour Albert.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
De vous avoir en ligne.
Nous aussi, Albert. Nous vous écoutons.
Eh ben écoutez, ma question est très simple. Pourquoi ne pas exposer des faux ? On réalise à l'heure actuelle des faux magnifiques, et mettre les originaux en lieu sûr, dans un coffre inviolable. Ça épargnerait beaucoup de vidéosurveillance, beaucoup de gardiens, de toutes ces sortes de choses. et ça sécuriserait le patrimoine français.
Merci Albert pour cette question. On a beaucoup de questions qui vont dans ce sens. Alexandre Portier, est-ce que ça vous paraît être une solution pour préserver notre patrimoine ?
C'est une question légitime, c'est important de se la poser. Après, je crois que les œuvres culturelles, notre patrimoine, est fait par définition pour être partagé. Et je pense qu'on aurait beaucoup moins de visiteurs pour venir le voir, ce patrimoine, si on ne pouvait pas accéder à l'original. Donc je pense qu'il faut prendre la question dans l'autre sens, plutôt se donner les moyens de sécuriser correctement et de protéger correctement ces pièces exceptionnelles qui sont le fruit de notre histoire.
Ça serait un constat d'échec de dire finalement on ne sait pas protéger, on prend trop de risques et donc on met toutes ces pièces à l'abri ?
Alors oui, en un sens, parce qu'une pièce exceptionnelle, elle est faite pour être vue, pour être regardée, pour être appréciée. Si finalement on doit se transformer en faussaire de notre propre patrimoine pour arriver à le partager, c'est un peu triste. On ne doit pas renoncer, parce qu'il y a des voleurs, à partager ces pièces d'exception.
Luc Lariba, un mot de l'enquête qui est en cours, vous qui avez suivi les enquêteurs de l'OCBC. On dit souvent dans des enquêtes que les premières heures sont déterminantes et qu'au-delà de quelques jours, on ne retrouve plus. Est-ce que c'est vrai aussi pour les œuvres d'art, ou alors elles peuvent ressurgir dans plusieurs années?
Il y a un facteur très important dans les enquêtes, et plus particulièrement à l'OCBC, c'est le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, ils n'ont pas le temps, et c'est dans les quelques heures qu'il faut activer toutes leurs connaissances, leurs compétences, les réseaux, les stratégies qu'ils ont mis en place depuis plus de 50 ans, puisque ça fait 50 ans qu'existe cet office. Et en même temps, ça peut être fait sur la longueur, c'est-à-dire que peut-être que d'ici 10 jours, il ne va rien se passer, et dans 2-3 ans, il va y avoir une faille dans le système des voleurs ou des receleurs ou du commanditaire qui font que ça va les ramener à cette affaire-là. Donc vraiment, le facteur temps, il est très important pour eux, et ça peut être rapide, 2-3 jours, comme ça peut être sur plusieurs semaines, mois.
Patrick nous appelle d'Avignon. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Nous vous écoutons Patrick.
Alors moi je me pose la question, pourquoi pas décentraliser les œuvres d'art en France, puisque c'est notre patrimoine, à mettre un peu à Strasbourg, à mettre un peu à Nantes, à Avignon, à Marseille, à Montpellier, à Bordeaux. Je pense que ça multiplierait le problème. Et puis nous, provinciaux, on pourrait profiter plus facilement des œuvres d'art de notre patrimoine. On n'est pas obligé de monter à Paris chaque fois, voilà. Ça c'est notre problème. Mais moi je suis pour la décentralisation des œuvres d'art françaises de notre patrimoine.
Merci voilà. Patrick pour cette remarque que je soumets à nos invités, même si vous nous dites que ça multiplierait le problème. Alexandre Portier, réaction à la proposition de Patrick. Bah oui, il y a beaucoup de Français qui ne peuvent pas voir ces œuvres d'art. Il y en a même peut-être beaucoup qui ont découvert l'importance de cette collection des joyaux de la couronne dont on parle tant depuis hier matin.
C'est une excellente question, et je dois dire à votre auditeur qu'il prêche un convaincu. J'ai toujours été un ardent partisan de la décentralisation. En matière culturelle en particulier, c'est-à-dire que la culture et le patrimoine ne doivent pas être l'apanage uniquement des grandes métropoles, des grandes villes, et on doit pouvoir la partager sur l'ensemble du territoire. Il y a des initiatives qui ont été prises en ce sens-là, c'est une bonne chose, mais ça veut dire aussi qu'il faut adapter les dispositifs de sécurité, les dispositifs assurantiels autour de ces œuvres-là, et que, évidemment, on prenne ce problème-là à bras-le-corps. C'est pour ça que je parlais d'une réflexion globale sur nos stratégies patrimoniales. Aujourd'hui, très clairement, on n'a pas eu ce débat politique, et il faut qu'on l'ait. C'est aussi le sens de cette commission d'enquête que je propose.
Mais je suppose que plus on divise le patrimoine, plus on le répartit, plus il y a des points sensibles, et peut-être plus c'est difficile de le protéger. Même si là, vous me direz, tous les joyaux de la couronne étaient centralisés dans la galerie d'Apollon, et au final, 8 bijoux ont été dérobés.
On a l'impression qu'il y a quand même une facilité assez déconcertante pour accéder à ces œuvres-là. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité. On doit pouvoir y résoudre par des moyens qui sont structurés, qui sont importants et qu'on peut mettre en place dans l'ensemble de nos départements.
Question pour vous, Luc Lariba, de Joseph, département des Yvelines. Les bijoux sont-ils assurés par le Louvre ? Les voleurs pourraient peut-être monnayer avec les assureurs, nous dit-il. Les œuvres d'art qui sont exposées dans nos musées sont-elles assurées ?
Elles sont assurées, elles sont garanties par l'État. Enfin, c'est un musée d'État. Donc, après, monnayer, ça peut être aussi une autre hypothèse, effectivement. Mais ça rentre dans ce qu'on disait tout à l'heure, d'une criminalité organisée, soit de monnayer contre un service, soit de monnayer contre une personne, contre une discussion politique, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, elles sont assurées. Oui.
Question de Philippe, département du Finistère. Pourquoi n'y a-t-il pas une puce sur tous les trésors publics qui sont exposés, Luc Lariba? Est-ce qu'on sait si...
À ma connaissance, aujourd'hui, je ne crois pas. Après, effectivement, c'est une question aujourd'hui, avec toutes les technologies qu'il y a, de pucer les objets à voir. Mais dans ce cas-là, ce n'est plus une œuvre d'art singulière, atypique. C'est presque une œuvre d'art, pas contrefaite, mais qui n'est plus dans son originalité, mais pourquoi pas.
Bon. On peut la poser sur un diamant, on peut la poser à l'arrière d'un tableau. Alexandre Portier, la commission d'enquête parlementaire que vous appelez de vos voeux, elle a aussi pour but de regarder toutes les solutions qui sont possibles, y compris technologiques.
Exactement. Les questions auxquelles on doit répondre aujourd'hui, dans ce moment dans lequel on est, c'est qu'est-ce qui doit être protégé, qu'est-ce qui est urgent, comment on peut y arriver aussi bien financièrement que techniquement, parce que tout le monde a bien compris qu'on n'est plus en 1950 et qu'on a des outils technologiques qui aujourd'hui nous permettent d'adopter nos solutions et nos stratégies, aussi bien pour le suivi des œuvres que pour leur conservation.
Moi, je suis frappé par l'ampleur des réactions politiques à ce casse depuis hier. Comment est-ce que vous l'analysez, Alexandre Portier? Vous allez jusqu'à demander la création d'une commission d'enquête parlementaire?
Alors, j'ai eu également aussi énormément de sollicitations en tant que président de la Commission des affaires culturelles, de simples Français, qui sont frappés de voir qu'on les touche au cœur en enlevant une partie de leur histoire. On parle de pièces là qui sont relatives de périodes qui sont importantes pour nous, quoi qu'on en pense, mais le Premier Empire, la Restauration, le Second Empire, c'est des périodes qui faisaient rayonner la France dans le monde, et on a tous... Voilà, des souvenirs aussi, gamins, quand on allait dans les couloirs du musée du Louvre, on a l'impression qu'on nous a enlevé quelque chose, avec la peur peut-être de ne plus le retrouver, et ça nous renvoie en miroir sans doute quelque chose d'encore plus vertigineux. C'est une forme de métaphore du délitement de notre pays, et ça je crois que ça nous frappe énormément.
Délitement de la France,
un pays qui n'est plus capable de protéger son patrimoine et son histoire. Forcément, ça soulève beaucoup de questions dans ce moment où la France doute parfois d'elle-même.
Merci à tous les deux. Alexandre Portier, président de la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Merci à Luc Lariba. Votre roman graphique, Trafic d'œuvres d'art, une enquête au cœur de l'OCBC. C'est aux éditions de La Martinière. Merci. 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie. C'est notre feuilleton et nous passons toute cette semaine chez le coiffeur, plus 26% de fermeture de salons au dernier trimestre 2024, d'après le cabinet Altares, par rapport à l'année 2023. Et ce sont surtout les petits coiffeurs de proximité qui sont fragilisés. Alors voilà un contre-exemple. Malgré le contexte difficile, eux ont ouvert il y a 5 ans dans le centre-ville de Mâcon. Le salon s'appelle l'Artisan Coiffeur. Il est géré par Sylvain et Sarah et nous suivons Maria Melkurdi.
Toujours appliquer deux shampoings, ensuite vous les essorez à la serviette, pas seulement à la main, et vous appliquez un masque sur les longueurs et sur les pointes. Merci. Le masque, vous pouvez le laisser poser.
Bon après-midi, bon retour. À bientôt. Je vous en prie.
Merci. Alors moi je m'appelle Sylvain Pacagnella et je suis le gérant du salon L'Artisan Coiffeur qui se trouve à Mâcon en Saône-et-Loire. C'était un salon qui était déjà existant, donc on l'a racheté, on l'a fait à deux. On a vraiment fait les papiers en plein Covid, quoi. On a fait une proposition à la banque, ils nous ont suivis.
Alors moi c'est Sarah Sécula, j'ai 26 ans et donc je suis associée avec Sylvain depuis maintenant 5 ans. Et je pense que l'insouciance de l'âge fait que je ne me suis pas posé la question. Et maintenant, si c'était à refaire, je pense que je me poserais plus de questions. Mais je ne m'étais pas posé la question. J'avais pas peur, en fait. Comme j'étais jeune et 21 ans, je risquais pas grand-chose, entre guillemets. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, si ça marche pas, tant pis, je retournerai dans un autre salon.
Ça faisait déjà quelques années que j'étais sur Mâcon. Donc forcément, moi, j'avais une clientèle. Donc je savais que j'allais ouvrir et que j'allais pas me retrouver avec zéro cliente depuis le premier jour. Psychologiquement parlant, on est un petit peu moins stressé en effet.
Et vous êtes passé du salariat à l'entrepreneuriat, hein, c'est ça?
C'est ça, ouais. C'est un drôle de bond et puis on découvre beaucoup de choses. Tout va bien, mais on a des charges qui sont très très lourdes. C'est énorme. Par exemple, l'État vous oblige obligatoirement à avoir un statut de cadre dirigeant qui, quand vous êtes dans le commerce, vous fait une retraite un petit peu plus confortable, mais sans que ce soit énorme, hein, parce qu'on reste dans de l'artisanat. Pour vous faire simple, quand vous avez un statut de cadre dirigeant, vous avez un salaire qui est chargé à 100%. Donc par exemple, si vous sortez 2000 euros de salaire, vous coûtez 4000 euros à votre entreprise. Donc je peux vous affirmer qu'il faut couper beaucoup de cheveux.
Et c'est ce qui se passe?
Absolument, oui. Moi, où j'étais avant, on avait des tarifs qui étaient beaucoup plus élevés. Donc nous, on a fait le choix d'avoir des prix un petit peu plus populaires, entre guillemets, pour toucher tout type de clientèle. Il n'y a pas de raison que l'étudiante ou celle qui travaille à l'usine n'ait pas les moyens de venir se faire coiffer chez nous.
Je suis super contente, c'était vraiment le changement que je voulais, donc je repars très contente.
Ils sont comment vos cheveux là ?
Souple et léger. Je me sens plus légère. C'est très bien.
Merci, bonne journée.
Merci à vous, bonne journée.
À bientôt, merci.
Les tarifs, on ne les a pas augmentés, enfin très peu augmentés. En 5 ans, on les a augmentés de 2 euros. C'est vraiment, par rapport à ce qu'on voit ailleurs, c'est vraiment rien, quoi. Du coup, bah voilà, on va continuer quand même à garder notre clientèle. Pour certains, forcément, ils viennent moins. Mais franchement, sur toute notre clientèle, je pense qu'on a réussi à conserver une bonne partie des personnes qui gardent le même passage, en fait, la même fréquence.
Sur les 2-3 dernières années, en moyenne, on a eu à peu près 30% d'augmentation sur les prix, tout ce qui est les produits, tout ce qu'on utilise. À répercuter, c'est strictement impossible. On va dire une coupe brushing, on oscille entre 40 et 52 euros à peu près. Ben, je crois que comme plein d'entreprises dans tous les domaines, on n'a pas trop le choix, quoi. Parce que sinon, on se retrouvait avec des tarifs qui devenaient impossibles pour les gens, quoi.
Une semaine dans leur vie à Mâcon, la suite demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. Le lundi à 13h50, Cécilia Arbona, vous nous parlez d'un lieu qui fait l'actualité. Aujourd'hui, on vous suit en Haute-Marne pour un sujet qui nous parle de la concurrence asiatique auquel nos produits font face. Les vanniers et leurs créations en osier sont depuis 2 semaines protégés par un label d'indication géographique.
Ce label va servir de bouclier face à la déferlante de paniers fabriqués en Asie. Ces objets utilitaires ou décoratifs inondent les grandes surfaces et les enseignes de bricolage ou de décoration. Pas facile pour le client de savoir s'il s'agit de fibres végétales ou de plastique. Il était urgent de défendre une tradition ancestrale, justifie Guy Thomas, coprésident du comité de développement et de promotion de la vannerie. Le voilà qui s'emballe pour vanter la robustesse et l'élasticité de l'osier, originaire de Faye-Billot, qui revendique le titre de capitale française de la vannerie. Le label d'indication géographique va concerner 83 communes en Haute-Marne et 5 en Haute-Saône.
Ces paniers en osier sont fabriqués avec du saule, c'est ça ?
Exactement, il existerait autant de variétés d'osier que de membres de la grande famille des saules. La palette des couleurs des salix est variée, elle aussi, blanc, crème, brun, pourpre, rouge, noir. À la fin du 19e siècle, 800 hectares d'oseraies étaient cultivés tout autour de cette commune de Faye-Billot. Aujourd'hui, il en reste à peine 50 hectares. Uh-huh. Et c'est ici, sur ces terres humides au sol acide, qu'a été ouverte en 1905 l'École nationale d'osier, culture et de vannerie. Après 1918, l'établissement qui recevait des apprentis de toute la France a formé des blessés de guerre, ceux qui avaient en tout cas conservé l'agilité de leurs poignets et de leurs doigts pour tordre et tresser. Guy Thomas raconte avec fierté « Après l'armistice, mon grand-père, le soldat Léon Blanc, originaire de Bourg-en-Bresse, est venu apprendre le métier ici et n'est plus jamais reparti. »
Et cette école est toujours en activité ?
Oui, 23 stagiaires sont inscrits en CAP ou brevet professionnel. Ce sont des élèves, mais on trouve aussi des adultes en reconversion. Il y a un réel engouement pour l'osier qui allie écologie et durabilité, explique Véronique Delaby, la directrice de la formation. 2 anciennes élèves de cette école sont devenues des signatures reconnues. Christine Berthet, installée à Nantes, conçoit des cabas, des malles pour des maroquiniers de luxe, français et belges. Catherine Roman, elle, première diplômée de l'école en ameublement rotin en 1981, vit à Villaines-les-Rochers, en Indre-et-Loire, un autre territoire de la vannerie française. Catherine Roman réalise des sculptures sculptures monumentales et des suspensions lumineuses aux allures de nids d'oiseaux. L'année dernière, elle a été co-lauréate du prix Bettencourt de l'intelligence de la main. Ces deux créatrices incarnent la vitalité d'une filière qui comprend entre 150 et 200 professionnels. Il faut arrêter de penser, plaisante Catherine Roman, qu'un vanier, c'est un vieux monsieur avec un chapeau de paille qui tresse son panier au bord d'une rivière.
Histoire méconnue et exhumée aujourd'hui pour nous par Cécilia Arbona. Merci Cécilia de C'est la France. Ah, c'est une chanson, c'est une semaine consacrée à Barbara que vous nous proposez, Frédéric Pommier. Aujourd'hui, nous réécoutons votre entretien avec la chanteuse Marie-Paul Bell et ce titre sorti en 1965. « Attendez que ma joie revienne », un titre qu'elle a elle-même très souvent chanté sur scène.
C'est l'histoire d'une femme qui vient d'avoir un chagrin d'amour, on va dire. Et elle fait une rencontre. Il peut se passer quelque chose, mais elle ne veut pas pour le moment. Il faut attendre parce qu'elle est encore dans le souvenir de l'autre. Elle est encore dans le sentiment d'amour pour l'autre. Et donc, c'est une chanson qui m'a parlé très vite et qui parle sûrement à beaucoup de monde parce que tout le monde a vécu ça dans sa vie, je pense, quand on a été très amoureux et qu'on perd quelqu'un, surtout qu'on ne dérange pas ce moment-là. Il faut un peu de temps, attendez que ma joie revienne. On peut faire des rencontres fulgurantes, mais peut-être pas tout de suite. Enfin, moi, c'est ce que je pense.
Et c'est ce que vous avez vécu ?
Oui.
Attendez que ma joie revienne et que se meure le souvenir de cet amour de tant de peine qui n'en finit pas de mourir. Avant de me dire je t'aime, avant que je puisse vous le dire, attendons que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire. Laissez-moi, le chagrin m'emporte et je vogue sur mon délire. Laissez-moi, ouvrez cette porte, laissez-moi, je vais revenir. J'attendrai que ma joie revienne et que soit mort le souvenir de cet amour de tant de peine pour lequel j'ai voulu mourir.
Quand j'ai rencontré Françoise Malé-Joris, un grand écrivain qui a écrit des best-sellers et qui était vice-présidente de l'Académie Goncourt, donc quelqu'un de très drôle, très enjoué, très vivant. On a d'abord eu des relations de travail, d'auteur à compositeur, et puis après, une relation amicale très très forte. Mais en fait, c'était un peu « attendez que ma joie revienne » parce que je venais de perdre ma mère, et au début, c'était comme si je faisais un transfert maternel sur elle, parce qu'elle avait 15 ans de plus que moi. Bon, c'est presque une génération, et j'étais en admiration complète devant elle, au point que je me mettais très en arrière quand on était ensemble. Et puis un jour, ça a été fulgurant, l'amitié s'est transformée en passion énorme. Et donc j'étais encore dans la tristesse de l'absence de maman, encore comme une petite fille au début qui n'arrive pas à retrouver ses points de repère. Donc j'étais dans cette atmosphère-là, attendez que ma joie revienne. Après, ça va prendre de l'ampleur. Pour l'instant, restons petits, restons en arrière, attendons que ma joie revienne.
Mais c'est trop tôt pour dire je t'aime, trop tôt pour te l'entendre dire. La voix que j'entends, c'est la sienne, ils sont vivants mes souvenirs.
C'était une longue histoire avec Françoise Malé-Joris.
Ah, c'était l'histoire de ma vie, l'amour de ma vie, la passion de ma vie. J'ai vécu toutes les formes de relations d'amour avec elle. J'ai retrouvé un amour protecteur, après un amour passionnel. Puis après, vers la fin de sa vie, c'est moi qui ai eu le rôle protecteur par rapport à elle. C'était très, très émouvant.
Lorsqu'aujourd'hui vous chantez cette chanson de Barbara, est-ce qu'il vous arrive de penser à Françoise Malé-Joris ?
J'y pense tout le temps. Pas que pour cette chanson, mais j'y pense avant d'entrer en scène. J'y pense, oui, quand je chante certaines chansons de Barbara. Et quand je chante « Attendez que ma joie revienne », quand à la fin je dis « C'est lui que j'aime », je veux dire, là, j'y pense. Et c'est elle que j'aime. Donc, les rencontres que j'ai pu faire ensuite, parce que, bon, j'ai vécu aussi d'autres aventures, on va dire. c'était tellement moins intense et tellement moins intéressant que, pff, à la limite, ça vaut pas la peine. Il vaut mieux rester sur quelque chose de fort.
Pardonne-moi, c'est lui que j'aime. Le passé ne veut pas mourir.
Attendez que ma joie revienne. Barbara, c'était donc le choix, Frédéric, de Marie-Paul Bell. Frédéric Pommier, je vous dis à demain.